Le livre de Deutéronome au chapitre 6. Lorsque demain ton fils te demandera qu'est-ce donc que ces instructions, ces lois, ces coutumes que Yahvé notre Dieu vous a prescrites. C'est à l'occasion de la fête de la Pâque. On se réunit, on mange debout, les sandales aux pieds, le bâton à la main, les herbes amères. Et encore dans beaucoup de familles juives, le plus jeune de la famille est chargé de poser les questions. Et le père répond. Et donc voilà la question que le plus jeune de la famille pose à l'occasion du cérémonial. Lorsque demain ton fils te demandera qu'est-ce donc que ces instructions, ces lois, ces coutumes que Yahvé notre Dieu vous a prescrites, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et Yahvé nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Yahvé a accompli sous nos yeux des signes et des prodiges grands et terribles contre l'Égypte. Pharaon et toute sa maison. Mais nous, il nous a fait sortir de là pour nous conduire dans le pays qu'il avait promis par serment à nos pères et pour nous le donner. Et Yahvé nous a ordonné de mettre en pratique toutes ces lois afin de craindre Yahvé notre Dieu d'être toujours heureux de vivre comme il nous l'a accordé jusqu'à présent. Telle sera notre justice. Garder et mettre en pratique tous ses commandements devant Yahvé, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Voilà le texte fondateur. Celui sur lequel revient sans cesse la question de la transmission, qui d'ailleurs correspond au cœur de la foi juive, « Souviens-toi, Israël ». Quand l'enfant demande pourquoi est-ce qu'on mange des herbes amères, pourquoi est-ce qu'on mange debout, pourquoi est-ce qu'il y a tous ces rites, vous remarquez qu'on ne lui répond pas. Ce qui est une grande sagesse. Mais qu'on l'inscrit dans un grand récit. On lui dit, souviens-toi, nous étions prisonniers en Égypte et puis Yahvé nous a délivrés, etc. C'est-à-dire que on ne répond pas par un dictionnaire des symboles, une interprétation plus ou moins réductrice des rites. Ce texte nous met devant la réalité fondamentale de la foi et de la religion, que nous distinguerons sans les opposer, qui est celle de la transmission. Un rite est une chose qui se transmet. Souviens-toi, nous étions prisonniers, quand vos enfants vous demanderont, etc. La transmission, je reviendrai là-dessus, étant essentiellement chose du temps. La transmission se fait d'un passé à un avenir par l'intermédiaire d'un présent. Et c'est Elie Wiesel, ce grand penseur juif, qui dit que en matière de religion, il est plus important de transmettre que d'innover. Et que la mémoire est un phénomène fondamental de la foi, de la religion. Ceci me fait penser à un épisode que j'ai vécu en visitant le musée de Cluny. Vous voyez le musée de Cluny, qui est un musée d'œuvres du Moyen-Âge, essentiellement à Paris. Et quand on visite un musée, surtout quand il n'y a pas beaucoup de monde, on retrouve toujours les mêmes groupes, d'une pièce à l'autre. Et mon chemin accompagnait à peu près celui d'une grand-mère et de sa petite-fille. Et la petite-fille ne savait rien. Donc à chaque fois, elle disait « Qui c'est celui-ci ?» Et la grand-mère disait « C'est Jésus. » Et alors, elle apportait des réponses très maladroites, du genre « Tu vois, là, on est en train de le fouetter, mais parce qu'il a dit qu'il était Dieu. » Et comme il est très courageux, pendant qu'on le fouette, il continue de dire « Je suis Dieu, je suis Dieu ».
Enfin, il vaut mieux en rire.
C'est horrible, cette histoire. Une grand-mère, la petite fille, ça veut dire qu'entre les deux, il y a une solution de continuité fantastique, que la petite fille ne sait rien, que la grand-mère ne sait pas grand-chose. Et que la médiation même de toute une richesse d'œuvres d'art est impuissante à faire renaître une mémoire de ses cendres. Donc voilà, la question de la petite fille. Edith Stein raconte que quand elle était donc dans sa famille, dans les récits d'une famille juive, Edith Stein raconte que comme elle était la plus jeune de la famille, c'était elle qui, au fait de Pessah, de Pâques, était chargée de poser la question. Mais comme son père était décédé, c'était les grands frères qui répondaient. Et les grands frères répondaient en se moquant. C'est-à-dire déjà, les grands frères ne répondaient pas vraiment avec la même solennité et la même foi que celle qu'aurait eu le père. Donc tout ceci pour nous mettre en présence d'une question dont vous avez bien perçu l'importance, qui est celle donc de la transmission, de la foi. Cette question se pose pour nous, je parlerai tout le long en croyant et en catholique, je pense que c'est le cas de tous ici, si c'était pas le cas, qu'ils m'excusent. Cette question donc se pose à nous croyants dans le contexte d'une société qui, dans tous les domaines, est remise en question du point de vue de la transmission. Parce que cette question de la transmission, elle se pose aussi bien pour les habitudes culinaires que pour les traditions familiales, que pour l'entreprise. On avait cette semaine une très très intéressante réunion où il y avait plus de monde sur l'entreprise comme lieu de transmission. Et c'est vrai qu'une entreprise est sans cesse secouée par l'innovation qui déchire le peloton, qui fait qu'il y a des laissés pour compte. Donc nous sommes dans une société qui donne une prime à la nouveauté, qui donne une prime à l'invention, et donc où ce qui est ancien est vite dévalorisé. Or, dans l'éducation, pas simplement dans l'éducation de la foi, c'est pas le nouveau qui est important. Enfin, le nouveau, il est là de toute manière. Mais dans l'éducation, l'important c'est de sous-peser ce qui mérite d'être transmis, ce qui mérite de durer, ce qui peut faire, ce qui peut résister à la précarité, à la rapidité, à l'usure des choses. Et donc notre société est caractérisée par l'injonction du court terme, de l'information instantanée, du lien sans promesse. Court terme, information instantanée, lien sans promesse, tout cela ne permet pas beaucoup de garantir une continuité, une persévérance, une transmission. Alors, la transmission est remise en question partout dans notre société, dans tous les domaines, mais évidemment, cette question est encore plus cruciale et je dirais même angoissante dans le domaine de l'éducation chrétienne, puisque la difficulté est grande de donner une éducation religieuse à ses enfants dans une société largement déchristianisée, non seulement déchristianisée, mais quelque peu suspicieuse à l'égard de la foi. On envie saint Paul quand il dit sur la place d'Athènes « Oh, j'ai vu que vous aviez une statue pour le Dieu inconnu, et moi, le Dieu inconnu, je le connais. » Nous ne sommes pas dans la situation du Dieu inconnu, nous sommes dans la situation du Dieu ignoré. Et c'est pour ça d'ailleurs que le thème de la nouvelle évangélisation lancée par Jean-Paul II se justifie, parce que l'évangélisation est très différente dans un peuple païen et dans un peuple athée. Un peuple païen, il prie, il espère, il attend le salut, il connaît quelques symboliques. Un peuple athée, s'il est vraiment athée, est tout à fait nu en symbolique. Et non seulement pauvre en symbole, mais en même temps, donc, dans une attitude de méfiance à l'égard de toute proposition de foi. Donc la question de la nouvelle évangélisation se pose aux familles, se pose aux écoles, se pose à toutes les communautés qui sont soucieuses de transmission. Alors je vais dessiner quelques aspects de cette question et puis crayonner quelques pistes de réponse. Alors d'abord, donc dans un premier temps, une distinction entre transmettre et informer, une distinction banale mais sur laquelle il faut bien revenir. Dans un deuxième temps, la question donc de que transmettons. Qu'est-ce que c'est que transmettre la foi, qu'est-ce que c'est que transmettre la religion, qu'est-ce que c'est que transmettre les rites, etc. Dans un troisième temps, une distinction sur les lieux et les niveaux de transmission. Et puis donc nous aurons le temps de partager nos expériences et nos questions. Alors d'abord, il faut revenir au sens de la notion de transmission. Donc je disais, la transmission fait passer quelque chose dans le temps, l'information fait passer quelque chose dans l'espace. On peut informer loin, on peut informer vite, on peut informer beaucoup de monde, on ne peut pas transmettre loin. La transmission veut la proximité, l'amitié, le compagnonnage, la coexistence. Si l'information peut passer par des moyens d'information, tels l'Internet, la radio, la télévision, la presse, le livre, il n'est pas sûr, il est même sûr que ne pas, que il n'est pas sûr que la transmission puisse passer par des moyens, par des médiations du type donc de médias justement, parce que les médias sont des médiations. La transmission non seulement veut la proximité, mais elle veut même la présence. Ne transmet à proprement parler que celui qui est là. Vous voyez, lorsque l'enfant demande mais d'où viennent toutes ces instructions, pourquoi toutes ces lois, on va pas lui répondre par un manuel ou par un DVD. C'est une difficulté même pour les professeurs, mais l'exemple de l'enseignement est bien. On évoque parfois la possibilité de remplacer l'enseignement par la télévision, l'écran et des médias. Pourquoi pas? S'il s'agit de transmettre des connaissances et des informations. S'il s'agit en revanche d'éduquer, rien ne remplacera la présence en chair et en os de quelqu'un qui est exposé, qui est là avec ses fragilités, sa grâce, et donc la transmission passe par une relation des personnes. D'autre part, à la différence de l'information ou de l'enseignement ou de l'instruction, la transmission est un geste total, indécomposable. On peut très bien enseigner ce qu'on ne sait pas faire. Il m'est arrivé d'apprendre à des enfants d'enseigner des choses que je ne sais pas faire. Et il suffit de savoir décomposer les séquences du geste et de dire, ben voilà, à peu près quel est le mode d'emploi. En revanche, il est impossible de transmettre ce que l'on ne sait pas faire soi-même. Et même la transmission, elle est au-delà des mots et des méthodes. L'exemple le plus parlant, c'est celui de la différence entre la transmission et la recette. La recette, elle est de l'ordre de la méthode. Même moi, je sais à peu près danser le tango, bon, je parle sous réserve de témoignage. Il y a une méthode pour le tango. Je sais à peu près danser le tango. Il n'y a pas besoin d'être un bon danseur pour savoir danser le tango s'il y en a la méthode. Même moi, encore pire, je serais capable de faire une marquise au chocolat si vous me donnez la recette. Mais si, elle ne sera pas plus mauvaise qu'une autre. En revanche, quand la mère, dans la cuisine, transmet à sa fille, prenons la mère et la fille, n'hésitons pas devant la caricature, et que la fille demande « Combien de sel faut-il mettre ?» et que la mère répond « T'en mets assez ?» Là, on est dans la transmission. Dans la recette, je sais que je dois mettre tant de grammes de sel et que tout le monde peut réussir une recette s'il a le mode d'emploi. La transmission, elle est un geste total. Elle suppose le compagnonnage, quelqu'un à côté de soi, que l'on imite. La transmission, donc, passe par l'imitation. L'enseignement, pas du tout. Enfin, il y a une part de l'enseignement. Il y a 70% de l'enseignement qui échappe à l'enseignant et qui passe par l'imitation. Mais normalement, l'enseignant lui contrôle 30%. C'est-à-dire ce qui concerne l'information. Mais il y a tout ce qui tombe de lui et qui fait que les élèves recueilleront ce qu'ils ne savaient pas. Car au fond, on transmet ce que l'on vit et même on transmet ce qui nous échappe. Ce que l'on transmet, on ne le possède guère. On ne le sait pas, au fond. On aurait beaucoup de peine à en faire une instrumentalisation, à en faire une méthode. S'il y a des méthodes pour instruire, s'il y a des méthodes pour apprendre à danser le tango, on voit difficilement qu'il y ait des méthodes pour transmettre. La transmission demande la présence, demande la durée. C'est la loi du compagnonnage, c'est ce que fait l'apprenti à l'égard de son patron. Il le regarde, le patron, quand l'apprenti lui pose une question, lui dit « démerde-toi », et l'apprenti regarde le patron et il fait un geste indécomposable qu'il ne saura à son tour pas expliquer. On sait expliquer ce qu'on sait décomposer. Ce qu'on transmet est total, indécomposable. Et alors évidemment, c'est la fécondité de la technique, c'est l'efficacité extraordinaire de la technique que de dégager de l'efficacité par la décomposition des gestes. Et un moteur, un appareil, la matérialisation d'une décomposition mentale. Donc la technique développe de la puissance, c'est son bienfait, c'est ce qui lui est propre, par un travail analytique. On séquence, et ce que l'on séquence, on peut le répartir, le répéter. Au contraire, donc, la transmission est, pourrait-on dire, si on distingue d'analytique, elle est synthétique, elle est totale, elle est globale, si bien que on ne peut guère que la répéter. Il y a une autre différence fondamentale entre transmettre et informer, et a fortiori entre transmettre et enseigner, ce qui d'ailleurs pose des problèmes à l'école, sur lesquels on reviendra peut-être. C'est que, là je prends la distinction plus particulière entre transmettre et enseigner. Quand j'enseigne, ce qui m'est arrivé pendant longtemps, et comme je le fais ce soir au fond, quand on enseigne, on commence par l'interrogation. On commence par le doute. Je ne peux pas enseigner si je n'ai pas fait naître un doute chez celui à qui j'enseigne. Tout enseignant, qu'il soit en physique, en histoire-géographie, en EPS ou en philosophie, commence par dire « tu croyais que, mais ». En EPS, c'est particulièrement difficile. Tu croyais, j'ai été professeur d'EPS pendant un an, tu croyais que tu savais, j'enseignais le basket. Si, c'est authentique. Alors, ça leur posait des problèmes parce qu'ils ne savaient pas comment on rémunérait un professeur de basket agrégé de philosophie. Donc, je crois que j'ai pas été rémunéré au bout du compte. Mais bon, ça fait rien. Donc voilà, je peux dire à quelqu'un, tu croyais que tu savais tirer, mais en fait tu sais pas tirer. Alors, il faut lui montrer qu'il sait pas tirer, il faut casser son geste. Après avoir cassé son geste, il faut décomposer quel est le bon geste et reconstituer par une espèce de prothèse intellectuelle quelque chose qu'il croyait savoir faire et auquel on va substituer le geste correct. Donc l'enseignement commence toujours par « tu croyais que, mais ». Si nous nous adressions à des ignorants, l'enseignement serait la chose la plus facile. Nous nous adressons à des gens qui savent déjà. Et donc il est nécessaire de casser quelque chose par rapport à ce qu'ils savent déjà. Et donc c'est cette opération merveilleuse, éblouissante de l'intelligence qui est le passage par le tout. Au contraire, la transmission commence par le crédit, commence par la confiance. Celui qui transmet, c'est parce que j'ai avec lui d'abord un contrat de confiance, un crédit préalable qui me permet donc de me situer à sa suite, de reprendre derrière lui ce qu'il a fait. Dans le cadre d'une appartenance, il y a transmission là où il y a une appartenance forte qui fait que le crédit est préalable. Alors vous voyez que c'est une grande question pour les établissements d'enseignement. Parce que l'enseignement veut faire des douteurs, souvent il ne fait que des paumés au lieu de faire des douteurs. Et pour éviter de faire des paumés, il faudrait qu'il soit un lieu d'identification forte. Mais s'il est un lieu d'identification forte, cela rentre apparemment en contradiction avec sa vocation d'être un lieu où on exerce l'esprit critique. Tout établissement connaît à des degrés divers cette alternative, adhésion ou esprit critique. En tout cas, la transmission, elle requiert l'adhésion, même si, comme nous l'avons vu dans le texte inaugural, cette adhésion n'exclut pas l'interrogation de l'enfant qui dit « mais pourquoi toutes ces coutumes ? Pourquoi ça ?» Mais j'ai souligné donc le fait que lorsque l'enfant pose ces questions « pourquoi toutes ces coutumes ?» on ne lui répond pas. D'ailleurs dans la Bible, on est tranquille, il n'y a jamais de réponse aux questions qu'on pose. Et en général, une nouvelle question. C'est comme c'est la méthode des jésuites. On répond par une question. Donc le fait que l'enfant se trouve en questionnement ne veut pas dire que pour autant il se trouverait dans une situation de doute. Alors évidemment, pour la réalité de la foi, la question est fondamentale. Parce que on ne peut pas exclure, il est même inévitable qu'un jour ou l'autre, les personnes, les enfants auxquels la foi est transmise, auxquels on transmet le message, se posent des questions, s'interrogent, doutent. Le passage par le doute requiert nécessairement une forme d'enseignement. Donc, à celui qui doute, je répondrai par un discours rationnel, un enseignement, une justification. Ouais. Seulement, tout ce que l'on justifie, au fond, on le ruine. Tout ce que l'on justifie, au moment même où on le justifie, on en fait apparaître encore davantage le caractère suspect. Et on sait bien qu'à trop justifier, on finit par discréditer ce que l'on justifie, alors que la transmission, elle ne se justifie pas. Elle se répète. Elle est affaire de mémoire davantage que d'intelligence analytique. Et donc cette opposition, cette distinction, mais c'est une opposition parfois, entre transmettre et enseigner, donc se rencontrent parce que les réalités de la foi ne peuvent pas ignorer les interrogations de l'esprit, la perplexité d'un enfant, son doute, voire sa révolte, dans l'ordre de la foi, il est impossible de se contenter de répondre à une interrogation sur pourquoi Dieu n'est-il pas marié, est-ce que le Christ est vraiment ressuscité, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a trois dieux, enfin vous voyez, des genres de choses qu'on entend, évidemment. On voit bien que si on répond à de telles questions sur le plan de l'information, il faut le faire. Mais en même temps, c'est raté. parce que ça veut dire que il y a autre chose que la simple information qui est interrogée derrière. Alors ça, c'est l'art du pédagogue, s'il y en avait un. S'il y avait un pédagogue, c'est celui qui serait capable de répondre et à la question dans sa formulation explicite et à la question dans ce qu'est le véhicule d'implicite. L'exemple type, c'est l'enfant qui demande comment naissent les bébés. On peut répondre sur le plan explicite, avec une planche anatomique, etc. Or, on sait bien que si on répond sur le plan explicite avec une planche anatomique, on ne répond pas à la vraie question, qui est sur le mystère de la vie, sur le mystère de sa propre naissance, sur le mystère de l'amour, et que à se dédouaner par une seule réponse objective, on manque la question. Et cependant, il faut répondre sur le plan objectif. Rude tâche. Et a fortiori, donc, dans l'ordre des choses de la foi, mais ça met en évidence quelque chose qui est important pour nous ce soir, c'est que une simple réponse informative détachée d'un cadre symbolique qui lui donne sens ne suffirait pas. C'est important à situer par rapport à tout ce qui est dit actuellement des enseignements sur le fait religieux. Alors hélas, j'ai bien peur d'être un de ceux qui sont à l'origine de ce malentendu, puisque j'ai été un des premiers, sinon le premier, bon peu importe, à promouvoir l'idée d'une culture religieuse, et l'idée qu'il fallait une culture religieuse. Et puis alors, au bout de quelques années, je me suis aperçu d'un malentendu terrible, c'est que ceux qui reprenaient mon propos comprenaient culture en un sens très muséographique. En disant, ben voilà, c'est une information sur, tu vois, un Bouddha, il a cette forme pour telle raison, et un minaret, il a cette forme pour telle raison. Et du coup, cette culture muséographique introduit un scepticisme de fond. Puisque sur le plan de l'information, tout se trouve mis au même niveau. Il faut répondre à l'information. Je suis de ceux qui se sont battus pour qu'il y ait des cours de culture, et je me continuerai de me battre si on m'en donne les moyens. Mais un pur cours de culture et d'information sur ce que l'on appelle le fait religieux, expression qui me paraît atroce, détaché d'une appartenance symbolique forte, c'est, au fond, cultiver un scepticisme de fait et mettre toutes les religions, les cultureuses, sur un tourniquet de carte postale où elles se trouveraient équivalentes et désarmant toute possibilité de réponse. Bien. Voilà, pour la distinction donc entre transmettre, informer, transmettre et enseigner, et les problèmes que cela pose. Alors, ce qui nous réunit ce soir, c'est la question de la transmission de la foi. Ce qui me conduit dans un deuxième temps à poser la question de ce que l'on transmet, à proprement parler, la foi est-elle objet de transmission. Du point de vue théologique, la réponse est clairement non. Puisque la foi est une vertu théologale, donc un don de Dieu, ce que la croyance est sur le plan de l'agir humain, la foi l'accomplit sur le plan des vertus théologales, nul n'a la foi que par le don de Dieu. Donc de ce point de vue, que peuvent les hommes les uns pour les autres? Ils ne peuvent pas se donner la foi, aucun homme ne peut dire « j'ai converti telle personne, j'ai fait tant de conversions ». qu'est-ce que les hommes peuvent se donner les uns les autres? Ils peuvent se donner des conditions de possibilité, des conditions de non-empêchement de la réception de la grâce. Ils peuvent, comme le dit Pascal, préparer par la raison l'œuvre de la grâce. Mais on ne peut que préparer par la raison cette œuvre et créer donc une disponibilité au mystère, une disponibilité à la foi. Pourquoi la foi est-elle mystère? Pourquoi la foi est-elle grâce? Revenons à ce qui la caractérise. Avoir la foi, ce n'est pas croire que Dieu existe. Croire que Dieu existe, c'est une croyance. C'est la distinction sur laquelle il faut toujours revenir entre croire que et croire en. Croire que Dieu existe, c'est une opinion. Il y en a des qui croient que les Martiens existent, il y en a des qui y croient pas. Ceux qui croient que les Martiens existent, ceux qui n'y croient pas, se trouvent à peu près dans la même situation, ce qu'on voit pas bien ce que ça change pour leur vie, à moins qu'ils fassent une base d'atterrissage pour les Martiens et un comité d'accueil. Mais croire que n'induit aucune conduite. Alors que croire en, c'est lier son existence à. Je ne crois pas que mon ami existe, je crois en mon ami. Ce qui veut dire que la foi est de l'ordre, comme l'a dit l'étymologie d'ailleurs, de la confiance et non pas de la croyance. Et puisque confiance, fiance, fidélité sont des mots de même racine que la foi, qui est donc le lien d'une liberté à une autre, l'alliance. La foi est de l'ordre de l'alliance, une liberté qui se donne à une autre. J'ai foi en toi, dis-je à mon ami, dis-je à ma femme, ça veut dire je me mets dans une alliance avec toi. En cela, le contraire de la foi n'est pas l'athéisme. Le contraire de la foi, c'est le péché, c'est-à-dire la rupture de la confiance. L'existence de Dieu, même si quelqu'un reconnaît la divinité du Christ, mais que cette croyance est vaine, est sans effet sur lui, on peut dire que cette croyance, il l'a même au fond pour sa condamnation. C'est ce que Fabrice Hadjadj rappelle bien dans un propos que d'ailleurs il a prononcé pour la première fois ici, dans son livre sur la foi des démons, où il rappelle que dans les évangiles, les premiers à affirmer la divinité du Christ, ce sont les démons. Et donc les premiers à croire que Christ est le Fils de Dieu, ce sont les démons, mais ils le croient pour leur perdition, pour leur condamnation. La parole qu'ils prononcent les condamne eux-mêmes, car ils la prononcent sans que cela transforme rien en eux, non seulement sans que cela ne transforme rien en eux, mais dans une haine pour ce qui n'est plus à leurs yeux finalement que l'énoncé d'une connaissance. Donc la foi ne se tient pas. Alors j'en profite au passage pour rappeler quelque chose que je pense qui est bien présent à votre esprit. La foi n'est pas l'ensemble des articles de foi. On ne croit pas dans un texte, on ne croit pas dans des articles de foi. On croit en la personne de Jésus, on croit en Dieu. Les articles de foi sont les conditions de validité de l'expression dans un langage de l'expérience de la foi. Donc la foi est une expérience de la personne, une expérience de la rencontre. Cette expérience, elle a quelque chose d'indicible, mais enfin, il faut bien qu'elle soit formulée. surtout quand il y a des accords. Et comme il faut que cette expérience soit formulée, on aboutit à des articles de foi, mais la foi ne se confond pas avec l'adhésion aux articles de foi. Plus que croire en Dieu, il faudrait même dire croire Dieu. Je crois Dieu. Je te crois. Comme je dis de quelqu'un, je te crois. Donc vous voyez, la croyance est probabilitaire. Jean-Luc viendra-t-il ce soir? Je crois. Croire que Dieu existe, c'est probable. La foi, elle, n'est pas dans l'ordre de la probabilité, elle est dans l'ordre de la décision, du don de soi, du risque, etc. Et c'est la raison pour laquelle elle est toujours l'entrée dans un mystère, exactement comme l'amour humain, finalement. C'est-à-dire qu'elle ne peut guère s'exprimer que sur le mode du « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Si je pouvais entièrement récapituler mes raisons de croire, ça voudrait dire que je suis seul. Si je pouvais entièrement récapituler mes raisons d'aimer quelqu'un, ça voudrait dire que je suis seul, que ce quelqu'un ne serait qu'un objet. Mais parce que pourquoi est-ce que je ne peux pas complètement récapituler les raisons d'aimer? C'est parce que nous sommes deux. Et que donc ce n'est pas une expérience dont je suis au centre. Il y a un autre pôle. Il y a une autre réalité. Il y a un je et un tu. Si j'étais au centre, je pourrais dire, bon ben voilà, tel avantage, tel ou tel inconvénient, telle ou telle raison. Donc ce qui est au-delà des raisons, ça n'est pas ce qui est irrationnel. Ce n'est pas ce qui est déraisonnable. C'est ce qui rentre dans une relation qui invite donc à rentrer dans le mystère qui n'est pas l'irrationnel, mais l'inépuisable. C'est pour ça que on peut le résumer par le « parce que c'était lui, parce que c'était moi », et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans l'expérience, puisque la foi est une expérience, dans l'expérience de la foi, les mots que nous utilisons, qui sont des mots, empruntent le plus souvent au registre amoureux. C'est bien connu chez les mystiques, qui empruntent au registre amoureux, voire érotique, pour décrire la relation d'abandon et de confiance à Dieu. En cela, on peut légitimement distinguer la foi et la religion. Ce fut une distinction très développée dans la seconde moitié du XXe siècle. Je pense que, à bien des égards, nous payons cette distinction accentuée au siècle dernier entre foi et religion, qui a abouti à des choses un peu banales, vous le savez, j'ai la foi mais je pratique pas, des choses comme ça. Et on voit bien quel est le sens de cette distinction, donc puisque la foi est une expérience intime, effectivement irréductible à un énoncé, irréductible à une adhésion à des articles, de même qu'elle est irréductible à tel ou tel geste. Qu'est-ce qu'une religion? En quoi la religion est-elle différente de la foi? La religion chez... alors là, il conviendrait qu'on s'arrête longtemps. Je sais pas si... Bon, on va voir. Parce que c'est un mot qui a subi une évolution incroyable, religion. Au sens premier, au sens le plus classique, religion, c'est une vertu. C'est la vertu de religion. Chez saint Thomas d'Aquin, c'est une vertu. C'est la vertu de justice appliquée à Dieu. C'est-à-dire, la religion, c'est la conduite de l'homme qui rend à Dieu la justice des œuvres, des actes et des rites qui lui sont dus. C'est en ce sens donc on parle d'un homme religieux qui honore ses obligations. C'est la montée de l'État, 16e siècle, 17e siècle, qui a conduit à parler de la religion comme d'un secteur de la société civile. Maintenant, on parle même des religions. Et l'expression « la religion » comme une activité propre à un certain secte, à une association de gens qui partagent des croyances et des rites. Maintenant, la religion, pour nous, dans notre tête, c'est une association de gens qui partagent des croyances et des rites. Si bien que l'on peut parler des religions, ou alors que l'on peut dire que le christianisme est, par rapport au genre religion, une espèce particulière, et que le catholicisme est par rapport au genre christianisme une espèce encore particulière, et que donc on aurait un genre religion qui serait, qui recouvrirait différentes confessions et pratiques, et puis dans ce genre donc des confessions locales situées dans la société civile. C'est très intéressant, si vous souhaitez, on reviendra là-dessus, parce que moi ça m'intéresse, de voir que c'est l'émergence de l'État qui a conduit les religions à se poser comme telles, comme interlocutrices. Un brave type dans une société holistique qui rend un sacrifice, vous l'étonneriez si vous lui disiez qu'il a une conduite religieuse. C'est comme ça d'ailleurs qu'il y a des ethnologues qui ont cru voir des sociétés sans religion. Il y a beaucoup d'ethnologues qui ont dit « mais cette société n'a pas de religion » parce qu'ils ne voyaient pas une activité à part. Ils ne voyaient pas des rites à part, un local à part, un personnel à part. Parce qu'au fond, toute la société était investie, teinte d'une réalité que nous appelons religieuse quand nous la séparons. Et donc c'est l'émergence du politique qui, dans sa confrontation avec le prêtre, a conduit à poser le prêtre comme un interlocuteur spécialisé chargé d'un certain secteur de la société civile. On reviendra là-dessus si ça vous intéresse, mais bon, parce que c'est une question politique et qui se pose actuellement, par exemple, par rapport à l'islam. Parce que le problème par rapport à l'islam, c'est que le politique dit « Attendez, mais qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes une religion, donc il faudrait que vous soyez une partie de la société civile, il faudrait que vous ayez une représentation, il faudrait que vous vous identifiez comme tel, exactement comme il y a un syndicat des bouchers et des coureurs cyclistes. » Puisque l'État ne peut avoir d'interlocuteur que institué. Bon, c'est une autre question. Qu'est-ce qu'une religion ? On le voit bien dans le passage inaugural par lequel nous avons commencé notre soirée. Une religion est caractérisée par deux traits. Un lien à l'absolu, un lien à une communauté. Le lien à l'absolu, appelons-le Dieu, c'est généralement son nom. On peut l'appeler absolu. Le lien à l'absolu a deux fonctions, si l'on peut dire, deux rôles. L'une, d'expliquer, l'autre, de sauver. Si on dit à quoi sert Dieu, je vous laisse imaginer la maladresse de la question, Dieu sert à expliquer un certain nombre d'énigmes du monde, et puis à proposer aux hommes un salut. Salut, ça signifie qu'il s'éprouve dans une détresse de l'ordre du péché plus que de l'ordre de la misère, et que donc Dieu est celui qui va les justifier, puisque être sauvé, c'est être justifié par Dieu. Le lien à la communauté se manifeste par deux choses, lui aussi. On le voit bien dans le texte que j'ai lu. Le lien à la communauté se manifeste par la présence d'un récit, d'un grand récit, d'un mythe fondateur, qui inscrit le sujet dans la profondeur des temps, qui relie le sujet à l'origine. La différence entre une histoire et un mythe, c'est qu'une histoire est purement temporelle, chronologique, elle a un point de commencement que l'on pourrait dater, le mythe relie la communauté à l'origine, pas au commencement. Et le propre de l'origine, c'est que, à la différence du commencement, elle est toujours présente. Le commencement est passé. Il vieillit d'un an chaque année. Donc je suis né le 12 mai 1926, c'est passé, et je prends un an de plus chaque fois. Ça ne cesse de s'éloigner. L'origine, au contraire, elle est toujours là. Elle est présente, elle n'est pas passée. Et le grand récit a pour sens de montrer que cette origine est présente. Vous voyez, la réponse faite à l'enfant, nous étions prisonniers en Égypte, etc. Cette réponse, elle pourrait se présenter comme historique. Elle a un côté historique, mais elle a aussi un côté fondateur, donc mythique, puisque elle dit que ce peuple est le peuple élu et qu'il le restera à jamais, bien au-delà du caractère contingent du commencement qui a fait que un certain nombre d'esclaves ont été libérés par un gars qui s'appelait Moïse. Donc le lien de communauté, il est caractérisé par un récit, et puis il est caractérisé, deuxièmement, par un rite. D'ailleurs, le rite, un mythe et un rite, pourrait-on dire, si on avait besoin de moyens mnémotechniques. Le rite n'est pas autre chose que l'actualisation du récit. L'incorporation du récit. Donc le rite n'est pas du tout, j'imagine que c'est pas à vous ce soir que j'ai besoin de l'expliquer, je parlerai à un public plus vaste, il faudrait que je l'explique. Le rite donc n'est pas du tout une pratique extérieure conventionnelle, il est vraiment une incorporation du sens. Et qui fait que une attitude religieuse, et c'est le point que nos contemporains ont le plus de peine à comprendre, c'est que un comportement religieux passe par une pratique, il passe par le corps, c'est-à-dire qu'il passe par l'ordre du pré-réfléchi, de l'irréfléchi même. Et si le pré-réfléchi n'est pas présent, si le pré-réfléchi n'est pas mobilisé, on a une conviction intellectuelle qui vaut plus ou moins, qui est, etc. Je vous renvoie un très très bel article, on a eu beaucoup de beaux articles dans le bulletin du Collège supérieur. Il y en a un qui a été particulièrement beau, qui avait beaucoup marqué les esprits, c'était l'article de Marie Chazot, à l'époque elle s'appelait Chazot, sur, je ne sais plus quel était le titre, protestantisme et catholicisme, je ne sais plus, dans lequel elle raconte son passage à l'Église catholique, où elle explique très bien que, entre autres, elle est passée à l'Église catholique à cause du rite. Parce que, et elle a une très jolie phrase en disant, on peut croire plus ou moins, mais on peut pas s'agenouiller plus ou moins. Ça, c'est clair. Et donc, dans le corps, on va toujours plus loin que l'état actuel de son mental. Et comme dans le corps, on va toujours plus loin que l'état actuel de son mental, il y a des tas de gens, cet ami qui m'agace, que je peux pas piffrer, je lui dis pas « dégage vieux con », je lui dis « bonjour monsieur ». Et heureusement, et donc dans le corps, je ne traduis plus que l'état actuel de mon psychisme. Et au fond, je suis plus vrai que si j'étais sincère. Le rôle du rite, c'est précisément d'aller au-delà de la sincérité. Et nos contemporains n'y comprennent rien au rythme, alors rien du tout. Parce qu'ils sont minés, rongés, défaits, déconstruits par l'idée de sincérité, contre laquelle je ne cesse de lutter en vain. Donc j'en finis par faire l'éloge de l'hypocrisie. On arrive à, je ne sais plus quelle ressource prendre. Et même, la religion, dans la concrétude du geste, dans la matérialité du geste, dans l'incorporation du geste, accepte de frayer le cousinage avec la magie. Quelqu'un qui met une bougie, qui allume un cierge. Conduite magique. Oui, sans doute. Parce que la magie, C'est ce qui consiste à traiter les choses comme si elles étaient les signes. Et les signes comme si elles étaient les choses. Donc c'est de la conduite magique. Mais en même temps, je ne suis pas juge, et si je barguine, si j'hésite à aller jusqu'à la conduite magique, je ne fais plus rien. Donc, c'est vraiment le grand danger de la conduite religieuse que d'aller à l'extériorité, d'aller même au danger de la magie, pour traduire que nous nous inscrivons, alors pourquoi des rites ? Pour traduire que nous nous inscrivons dans une vérité qui nous dépasse. Et qui dépasse l'état actuel de notre compréhension, de notre jugement. Je peux prier étourdiment, c'est mon corps qui maintient la permanence. Et Pascal résume tout cela avec évidemment le génie qui est le sien, lorsqu'il dit « Le refus de l'extérieur est orgueil, la confiance dans l'extérieur est superstition, la foi veut l'union de l'extérieur et de l'intérieur. » Once more, one more time. Le refus de l'extérieur est orgueil. La confiance dans l'extérieur est superstition. Se traduit vaguement, hein. C'est actualisé. Et la foi veut l'union de l'intérieur et de l'extérieur. C'est parfait comme résumé. Mais évidemment, cette union de l'intérieur et de l'extérieur, elle suppose donc certain risque. Alors, cette rapide distinction, enfin pour l'instant on n'en est pas à la distinction, on peut donc concevoir que, sans doute, il peut y avoir foi sans religion. On en a quelques exemples. Un des plus remarquables, c'est Eti Ilesum. Cette jeune fille qui tout d'un coup tombe à genoux dans sa salle de bain, en lisant Rilke et Dostoïevski, c'est assez mystérieux, le Seigneur fait ce qu'il veut, je sais pas comment est-ce qu'il a été atteindre cette gamine à Amsterdam, en tout cas c'est pour notre bienfait, puisque, quel livre. Et Ilesum n'appartient à aucune religion, n'est rien, c'est une espèce de zombie, comme ça, tombé dans la Hollande occupée. Et donc je peux très bien entendre que quelqu'un peut avoir la foi sans religion, et que même vouloir confondre la foi et la religion, c'est du pharisaïsme. Certainement. Je peux entendre réciproquement d'ailleurs, ce qui est le cas d'un grand nombre de juifs, que quelqu'un peut avoir la religion sans la foi. J'ai un collègue juif ultra pratiquant. C'est très pénible, parce que quand je l'appelais le vendredi soir, il répondait jamais. Et ce garçon n'a pas plus la foi qu'un fromage de Hollande. Et c'est ce qu'il dit, en tout cas. Mais il est pratiquant. Ça ne gêne pas du tout un juif d'être pratiquant et pas croyant. Parce que, précisément, il sait qu'il s'inscrit dans une histoire. Puis que cette histoire, elle vaut la peine, et qu'il serait d'ailleurs... Vraiment, surtout vu le poids du siècle dernier, il serait un peu honteux même de rejeter cette histoire. Donc il assume cette histoire, même si il n'y croit pas. Donc on peut concevoir que quelqu'un ait la foi sans la religion, on peut concevoir que quelqu'un ait la religion sans la foi, mais si on comprend bien que la foi c'est... le don tout entier de la personne dans une relation mystérieuse, on comprend aussi que cela ne peut exister que dans une attitude de type religieux. Ce qui revient à dire que et c'est le problème éducatif, c'est qu'elle ne peut pas exister comme un secteur isolé. Comme on peut être, par ailleurs, bricoleur ou bouliste. Le problème avec la réalité religieuse, avec la foi, c'est qu'elle concerne la personne tout entière. Corps, âme, esprit. Qu'elle imprègne normalement les activités tout entière, pas seulement le dimanche matin. Encore que, il n'est pas mauvais qu'elle imprègne le dimanche matin. C'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'actuellement, nous avons une conception un peu gauchie de la religion, quand nous pensons que c'est un secteur isolé. Parce que pour le croyant, c'est pas un secteur isolé. Il n'est pas croyant le dimanche. C'est total. Il est croyant quand il se lève, quand il s'habille, quand il prend sa douche, quand il fait cours, quand il mange ses sandwichs. Et boit son whisky. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que on a donc un acte total. Alors c'est la présence de cet acte total qui crée tant de difficultés politiques. Parce que la politique, elle a besoin d'identifier des secteurs. Le total est totalitaire pour le politique. Et donc on voudrait arriver à établir des lieux neutres, ce qui pour un croyant est très difficile. Que la foi concerne la personne tout entière, corps, âme, intelligence, détaillons-le. Puisque ça nous fait revenir plus près de notre sujet, qui est celui de la transmission de la foi. Le corps, cela veut dire que la foi passe par des pratiques, par la vie fraternelle, par des images, par des habitudes qui tissent la totalité de la vie. Les Juifs ont 640 lois. Un Juif pieux est quelqu'un qui fait une prière quand il rentre au WC. Ça occupe le temps, hein. Et tout le quotidien se trouve investi, imprégné, inséparable. Et c'est pourquoi le premier lieu de transmission de la foi, c'est la famille, où précisément s'incarne, s'incruste ces formes pré-réfléchies, cette mémoire. Et peut-on transmettre la foi? La foi, certes pas. Mais on peut, on devrait transmettre une mémoire. Qui est justement la relation à la vérité dans l'ordre du pré-réfléchi. Les romans d'Isaac Bashevis Singer, que je vous recommande, si vous n'avez pas encore lu des romans de Singer, dépêchez-vous. Ce fut, il est décédé, un grand auteur juif, pas spécialement croyant d'ailleurs, même plutôt pas. Il écrit de très grands livres. Si vous n'en avez pas lu, je vous conseille de commencer par L'Esclave, par Le Magicien de Lublin, La Corne du Bélier. Les gens de la rue Krochmalna. De toute façon, l'histoire est toujours la même. Vous pouvez lire n'importe lequel. L'histoire est toujours la même. C'est, un juif qui a tout oublié de sa foi, qui mène une vie de patachon, alcoolique, débauché, étourdi et qui oublie tout, etc. Qui oublie Dieu. Qui tombe au fond de la fosse, au fond de la détresse. Et au fond de la détresse, lui reviennent des prières. Par la mémoire. C'est la scène que nous avons vue. Souviens-toi, Israël, Shema Israël. Et la mémoire rend disponible, savoir par cœur, il n'y a pas un mot plus beau, la mémoire rend disponible une réserve de sens qui fait que les prières que j'ai apprises, les rites que j'ai eus, que j'ai connus, peuvent revenir comme une première alliance, au fond. La première alliance, elle est là. Premièrement le corps, donc un corps d'habitude, de mémoire, etc. Deuxièmement l'âme. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Il est difficile de transmettre la foi. On ne transmet pas la foi, on transmet les conditions de la société. de rendre possible la transmission de la foi. Si l'enfant n'a pas connu un apprentissage suffisant de l'intériorité. Or, les enfants sont disposés à l'intériorité, contrairement à ce que l'on croit souvent, au silence, à la vie contemplative. Je vous renvoie à des livres qui maintenant sont un peu oubliés, de Noël Leduc, qui avait engagé une méthode d'apprentissage de la foi qui était très belle et qui invitait l'enfant, dans un premier temps, à faire silence, à se recueillir, à entendre en lui-même. On ne peut être que attristé quand on voit des enfants violés de leur vie intérieure, au fond. Par, allez, on va tomber dans le cliché, la télé, tout ça. Un imaginaire de pacotille. C'est horrible, enfin, ça m'horrifie. Alors heureusement que le Seigneur se débrouille mieux que nous, mais je crois que avant même l'apprentissage de la prière, il y a l'apprentissage du silence, l'apprentissage de l'intériorité, l'apprentissage de la contemplation, à travers même une certaine forme de liturgie et même à travers une certaine forme d'ennui. Il y a une fécondité là aussi éducative de l'ennui, qui traduit la saturation du sens par rapport à l'état actuel de notre psychisme. Et puis, troisièmement, donc, un corps, une âme, une vie intérieure qui passe à travers une liturgie, qui passe à travers l'apprentissage du silence, et puis de mettre à la porte des oreilles, à la porte des yeux, des vigiles, pour empêcher que trop de choses viennent envahir, il y en a toujours. Quand on voit, juste une parenthèse complètement vulgaire, mais c'est vrai que les enfants, par exemple, apparemment, ont souvent de la difficulté à se tenir en silence à la messe. Alors, c'est vrai que c'est plus tellement à l'école qu'ils l'apprennent. C'est pas en famille. Heureusement, le Seigneur fait son boulot, et mieux que nous, mais quand même, un enfant qui n'a pas appris à se taire et à rester immobile, à faire zazen, alors du coup, il va faire zazen après, il va faire du bouddhisme et des machins comme ça, alors que c'est quand même le premier apprentissage. Voulez-vous apprendre à prier à vos enfants, apprenez-leur d'abord à rester à genoux en silence, se recueillir, entendre en eux-mêmes, même s'ils ne prient pas, qu'il y ait un temps de creux, quoi, spirituel, de disponibilité spirituelle. Et enfin, donc, formation de l'intelligence, formation du corps, formation de l'âme, formation de l'intelligence à travers l'enseignement. Ce qui est fondamental, en plus, alors là, je me retrouve sur un terrain qui est celui que j'ai beaucoup travaillé, puisque je suis professeur, cette formation de l'intelligence est fondamentale pour que le développement de la foi accompagne le développement de la raison. Rien n'est pire que l'assimilation de la foi à l'enfance. Il faut que le développement de la culture suive le développement de la foi, il faut que le développement de la foi suive le développement de la culture. Donc certainement, le charbonnier, puisqu'on nous parle de la foi du charbonnier, certainement le charbonnier, il lui suffisait de connaître son pater et son ave. Les charbonniers, il n'y en a plus. Tout le monde a la télé, tout le monde sait ce que c'est que le 440, ce que c'est qu'un complexe d'Édipe, ce que c'est que... tout le monde se demande s'il faut recapitaliser les banques, et donc des charbonniers, il y en a plus. Et il est nécessaire, c'est plus que nécessaire, c'est un devoir de que quelqu'un qui a un niveau très passable de culture, c'est-à-dire nous, ait simultanément, du point de vue religieux, une culture équivalente. car le pire serait qu'il gardât sa foi par fidélité à une enfance qu'il n'a pas osé remettre en question. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'obscurantisme. Et donc, y a deux solutions pour que la foi et la culture soient au même niveau. Soit on baisse la culture, ça c'est la solution de l'obscurantisme, soit on monte la culture religieuse, et c'est celle qui peut accompagner une foi adulte. Voilà les différents plans. Donc, dans une dernière partie, rapidement, esquissons quelques chemins en nous interrogeant sur quels sont les moyens humains dont nous disposons, fraternels et familiaux, pour la transmission de la foi. Premièrement, la famille. Donc, c'est vrai qu'actuellement, des enfants élevés chrétiennement seront conduits, sont tout le temps conduits à avoir à rendre raison de ce qu'ils croient. Donc il y a intérêt à ce qu'ils puissent être suffisamment structurés, suffisamment confiants et suffisamment en mesure donc de rendre raison les pauvres choux, selon l'injonction de Saint-Pierre, de rendre raison de leur espérance. Et donc, il ne suffirait pas de faire naïvement confiance dans les images. Comment cela passe-t-il dans la famille, qui est le premier terreau, la première cellule de l'Église, la première réalité de l'Église? Transmettre. Alors maintenant, revenons au mot transmission. Transmettre, cela veut dire que l'on communique ce que l'on a soi-même reçu. C'est là que transmettre est différent d'informer. Et donc, il serait impossible de parler de transmission de la foi pour quelqu'un qui n'a pas la foi. De la part de parents qui n'ont pas la foi. Nous avons essayé d'apprendre à nos enfants la musique, nous ne sommes pas musiciens. Ce ne fut pas un échec lamentable. C'est quand même pas extraordinaire comme résultat. Car on ne transmet vraiment que ce que l'on vit soi-même. Et même si on fait des efforts pour emmener les enfants au conservatoire et qu'on se dérange le soir pour faire les accompagnements et leur faire apprendre leur solfège, c'est besogneux et donc il n'y a pas le terreau humain nécessaire. Le premier apprentissage, et beaucoup le disent, beaucoup le disent, le premier apprentissage, c'est de voir ses parents prier. Rien n'est plus impressionnant même que de voir les parents prier, a fortiori le père, c'est-à-dire se mettre à genoux devant plus puissant que lui. On se demande bien devant qui il peut se mettre à genoux. Et il y a là-dedans quelque chose qui est vraiment un objet de contemplation. Si bien que l'on peut dire de la famille que, comme le dit Jean-Paul II, qu'elle est la première église, la première cellule de l'église, dans laquelle peut se faire, comme je le disais, l'apprentissage du rite, l'apprentissage de l'intériorité, l'apprentissage du récit, l'apprentissage de la contemplation, en particulier à travers la célébration du dimanche. D'ailleurs est totale, parce que la célébration du dimanche, elle correspond à la prise de conscience de la convocation du peuple de Dieu. Donc le peuple de Dieu est convoqué, ecclésia ça veut dire convocation, église ça veut dire convocation. Donc de manière concrète, les enfants qui vont à la messe le dimanche découvrent la diversité de l'Église dans ses âges, dans ses diversités locales, selon qu'on va à la messe, à la campagne ou en ville ou dans tel lieu ou dans tel autre. Et donc il y a à travers cette convocation un apprentissage concret de l'universalité de l'Église et de sa diversité. Et puis quand je dis que le geste est total, ça veut dire aussi que le dimanche se fait en famille, qu'on y mange un bon gâteau, et que ça contribue à inciter à aller à la messe. Que c'est un geste total. Et que s'il y a un bon repas derrière, ça aide à l'évidence à apprécier l'ite missa est. Toutes les familles ne vivent pas cela, il y en a peu. Toutes nos familles sont pauvres, difficiles, beaucoup en souffrance. Deuxième degré, celui du catéchisme. C'est-à-dire d'une transmission de la foi à l'intérieur de l'Église dans le cadre d'un enseignement. D'un enseignement qui soit accompagné d'une pratique, parce que au catéchisme, on prie et on enseigne. Je crois que ce point de vue, il y a des difficultés théologiques sur lesquelles je me risque, sans grand danger d'ailleurs. Il me semble, je ne suis pas le seul à le dire, que dans une société déchristianisée, il est impossible de commencer par Jésus. Il faut commencer par Dieu. Et ce qu'il y a de beau dans le catéchisme, c'est qu'ils suivent l'ordre de la révélation. Qu'ils suivent l'ordre de la philosophie, de la théologie, de l'Ancien Testament, puis du Nouveau Testament. On peut pas commencer par Jésus. Si vous commencez par Jésus, vous en ferez à la rigueur, je crois quoi, un mec sympa. Commencez par Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit. Et c'est pour ça qu'il est bon que le catéchisme reparcourt l'histoire sainte et les alliances. Et c'est la raison pour laquelle il est bon de commencer par la création. Parce que quand on commence par la création, on commence vraiment par les interrogations fondamentales de toute conscience. Et on commence par Dieu. Si vous dites au moment de la communion, je ne sais pas, j'ai aucune recette, hein. C'est simplement des propos que j'avance comme ça. Si on avait des recettes, on serait plus malade. Au moment de la communion, j'ai eu à expliquer la communion à mes enfants, comme tout le monde. Si vous dites, tu vois, c'est Jésus, ça marche pas, c'est absurde. En revanche, si on dit, c'est le pain de Dieu, là ça se comprend. C'est le pain que Dieu nous donne. Puis après, on peut découvrir que Jésus est le pain que Dieu nous donne. Mais dans un premier mouvement, dans l'ordre, et c'est là que c'est théologiquement tout à fait fondé, c'est que le surnaturel ne fait pas violence au naturel, et que dans l'ordre de la révélation, il y a une révélation naturelle, qui est celle de l'intelligence. Le mystère de l'origine du monde, de la beauté du monde, le mystère de Dieu, le mystère du Père, et ensuite, d'ailleurs, Dieu ne nous est révélé comme Père que par Jésus, finalement. Et de telle sorte que il conviendrait que ce catéchisme donne un terreau d'imaginaire par les grands récits, qui valent toujours mieux que la guerre des étoiles, et donne aussi, donc à travers ce terreau d'imaginaire, l'inscription donc dans le caractère naturel de la révélation. Je crois que ça serait ou c'est une bonne cure de désintoxication par rapport à cet imaginaire de pacotille que j'évoquais tout à l'heure et dont nos pauvres gamins sont envahis par des substituts du sauveur que sont, je les mélange tous, moi, l'homme araignée, l'homme machin, soit Spider-Man, je les mélange tous, je suis nul là-dedans. Ils m'ennuient tous également. Mais voilà, c'est des substituts minables, quoi. C'est parce qu'on n'a pas su ou qu'on ne sait pas leur donner des grands récits. Et si on laisse l'imaginaire envahi de ça, évidemment, il n'y aura plus beaucoup de place pour la contemplation. Et c'est pour ça que dans sa grande sagesse, le catéchisme commence par le credo, Même si vous regardez le catéchisme de l'Église catholique, hein, commence pas par Jésus, le catéchisme de l'Église catholique, il commence par l'homme et désir de Dieu. Je prends un bonhomme, il est en train de faire son tiercé, je lui dis, toi, tu es désir de Dieu. Ça, il peut comprendre. Et puis, je peux le conduire du désir de Dieu à reconnaître ce désir de Dieu dans l'idée de la création. Et je peux faire comprendre que la création est une alliance. Et puis, je peux faire comprendre que cette alliance ouvre la porte à d'autres alliances dans une histoire. Mais le catéchisme a tout à gagner à suivre l'ordre de la révélation. Il y a un ordre de la révélation. C'est pas nous qui l'inventons. Et il est donc celui de qui va donc du credo au sacrement au dix commandements au Notre Père. La famille, la catéchèse, l'école, sur laquelle je passe plus vite, puisque l'école, elle, doit ou devrait honorer, qu'elle soit école laïque ou confessionnelle, le dialogue de la culture et de la foi. Une intelligence, qu'elle soit dans une école laïque ou une école confessionnelle, ne peut pas se constituer pleinement en étant sourde aux grandes inquiétudes humaines, en étant sourde au sens du mystère, et qu'elle soit laïque ou confessionnelle, une école manque gravement à sa mission si elle transmet une culture strictement athée. Et alors là, il y a des enjeux énormes. Il n'est pas un cours de littérature qui ne donne pas le sens du mystère de la personne. Ça devient simplement un truc sur les, je sais pas quoi, les séquences narratives. Un cours de mathématiques qui ne donne pas le sens de la contemplation, ben c'est un ensemble de procédures qu'on fait avec la babasse. Un cours de philosophie qui ne donne pas le, qui interdit le mot Dieu, puisque dans le mot Dieu est supprimé les cours de philo. Vous vous rendez compte que si moi, j'ai une bibliothèque de philosophie chez moi, c'est mon métier. Si moi j'enlevais de mes rayons les livres où il y a le mot Dieu, il n'y aurait plus rien. Eh bien, c'est incroyable que les programmes de philosophie ne mentionnent pas le mot Dieu, alors que c'est la question de toute la philosophie depuis toujours. Où est l'honnêteté intellectuelle quand même? J'arrive pas à y penser sans colère. Et pourtant, j'y pense depuis 50 ans, et chaque fois que j'y repense, je me remets en colère. C'est ahurissant. Que l'école soit laïque ou qu'elle soit confessionnelle, la mission est la même. Une intelligence ne peut pas être complète si elle est sourde au mystère. C'est en cela que les développements de M. Sarkozy sur la laïcité ouverte me semblent assez pertinents. Le discours du Latran, qui a fait scandale, est un très bon discours. Très très bon discours. Mais bon. Voilà. Bon, je terminerai là-dessus pour laisser place à la question. Donc à la question, peut-on transmettre la foi? La réponse est évidemment non. Toutefois, on peut transmettre donc les conditions d'accès à la foi, les conditions de réception. C'est le premier service fraternel et parental que nous avons à nous donner l'un l'autre. La question n'est pas tant de donner la foi que de donner les mots pour l'exprimer, de donner à un enfant ce qui peut lui permettre de grandir finalement comme quelqu'un de libre. Tout cela repose évidemment sur la conviction que quand je transmets ma foi, allons-y. Quand je transmets ma foi, je n'aliène pas, mais je libère. Tous les gens qui se demandent, mais faut-il enseigner la religion, sont persuadés que celle-ci est une source d'oppression. Donc ils veulent pas, ils hésitent. Si moi, je perçois ma foi comme une source inépuisable de libération, je ne peux que souhaiter la transmettre. Non pas comme un instrument de pouvoir, sur l'autre, mais comme ce qui est une chance pour sa libération.